Commençons par la prière. Seigneur Jésus-Christ, utilise ce temps, nous t'en prions, pour nous enseigner, nous aider à comprendre un peu mieux qui tu es. Utilise-moi, Seigneur, dans ma petitesse, pour être un canal de ta grâce, comme Sandra avait prié, pour que, par ta grâce seulement, Seigneur, mes frères et sœurs ici présents puissent recevoir quelque chose qui vient de toi, quelque chose qui leur est utile pour avancer avec toi. Une parole qui vient de toi. En ton nom je prie, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme vous savez, je vous ai encouragé à lire la Bible régulièrement. En général, quand on prend des bonnes résolutions, ça tient quelques semaines, puis après, ça commence à se... Ça se ramollit, puis on se dit, bon, bah, finalement, on a essayé... Certains ont essayé 4 chapitres par jour, d'autres 3, d'autres 2, d'autres 1, donc d'autres 1, et puis d'autres ont dit, bon, j'essaye un petit peu quelques versets, puis au bout de quelques semaines, ça se tasse. On oublie un petit peu. J'aimerais à nouveau vous dire, mon but, c'est de vous accompagner dans votre lecture de la parole de Dieu. Les églises protestantes ont cela de particulier, que ce n'est pas le pasteur le centre, que ce n'est pas le culte le dimanche le centre, c'est votre relation avec Dieu le point clé. Et votre relation avec Dieu ne grandira pas sans que vous lisiez la Bible. Si vous voulez rencontrer Dieu, priez et lisez la Bible. Si vous ne voulez pas rencontrer Dieu, ne lisez pas. Dieu pourra quand même vous toucher, mais pas forcément de la façon que vous souhaitez. Je dirais, s'il est le créateur de l'univers, il nous touchera. Il nous touche et il nous touchera, mais à travers la parole, on a un accès direct. Et si on médite et si on demande, on va pouvoir entendre des choses et se rendre compte de choses qui sont importantes. Aujourd'hui, on se tourne vers l'évangile de Jean, qui, dans la lecture quotidienne, est l'évangile que nous allons aborder, pour ceux qui suivent. Et je vous encourage, dans la mesure du possible, à lire cet évangile dans les prochaines 2 semaines. Et vers Pâques, on va lire à nouveau la partie clé de la mort et de la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner dans ces chapitres-là, qui seront les chapitres 18 à 21 de l'évangile de Jean. Pour aujourd'hui, on va faire un survol très bref de l'évangile de Jean, et je vais juste souligner 7 paroles de Jésus. 7 paroles où Jésus va affirmer aux personnes qui l'écoutent qui il est. Et il va dire des enseignements qui ont été des enseignements clés sur qui Jésus est depuis les premiers siècles. Pour le faire, je vais vous donner des chapitres et des versets. Donc, combien on a de personnes? On va essayer, on va commencer alors. Thierry, tu vas te préparer. Toi, tu prépareras le chapitre 6, versets 27 à 35. L'évangile de Jean, chapitre 6, versets 27 à 35. Et une fois que tu as trouvé la page, tu la gardes, ça sera pendant quelques minutes. Jean, 4e évangile, chapitre 6, versets 27 à 35. Il nous arrive de se demander, est-ce que Dieu existe? Ou on peut se poser la question, mais comment on peut savoir si Dieu existe? La façon, je dirais, que quelqu'un français avait encouragé il y a de cela déjà à peu près 4 siècles, c'était Pascal, un des plus grands intellectuels au monde. Un des jeux auxquels jouent les psychologues ces derniers temps, c'est d'essayer de donner des quotients intellectuels aux gens qui ont vécu 3, 4, 5, 10 siècles ou 20 siècles avant. Et Pascal faisait partie des 5 ou 10 personnes qu'on considère être les plus intelligents de tous les temps. Et ce monsieur n'avait pas été à l'école d'ailleurs, il avait été éduqué par ses parents, par son père en particulier. Et le gars était un génie, à 15 ans déjà, il faisait des démonstrations de théorèmes qui n'existaient pas encore. Il a fait des démonstrations importantes sur le thème de l'optique, sur les coniques en mathématiques. Il a fait des recherches dans tous ces domaines-là. Et cet homme-là, à un moment donné, a découvert Christ. Cet homme qui est un des hommes les plus intelligents de tous les siècles, a découvert Christ. Et du jour au lendemain, il a dit, j'arrête de faire des recherches en mathématiques. Même si c'est important, il y a quelque chose d'encore plus important pour moi. Et une des choses qu'il s'est rendu compte, c'est qu'il était dans un siècle de ce qu'on appelle les Lumières, où on commençait à dire, finalement, il n'y a plus besoin vraiment de Dieu. Et il leur disait, je vais vous donner un défi. Faites comme si Dieu existe vraiment. C'est ce qu'on a appelé le défi de Pascal. En anglais, Pascal's Wager, je crois que c'est l'expression. Et il a dit, je vous mets au défi. Commencez à vivre et à prier comme si Dieu existe vraiment et qu'il est vraiment le Dieu qui parle dans la Bible. Posez-lui des questions, attendez des réponses. Et apprenez de lui. Parce que des fois, dans le monde moderne, on a trouvé un peu l'antidote. L'antidote, c'est, on va vous donner toutes les questions qui vont vous montrer que Dieu n'existe pas. Dites pourquoi Dieu souffre. Pourquoi Dieu est méchant. Honnêtement, c'est des questions pour des gamins de 4 ans, ça. Pardon, mais c'est des questions pour des gamins de 4 ans. C'est comme si votre enfant vous dit, pourquoi à l'école la maîtresse est méchante? Et vous allez lui dire, bon, bah, va plus à l'école puisque la maîtresse est méchante. Si c'est une maîtresse qui veut le bien de l'enfant, elle va lui dire, est-ce que tu n'as pas fait une bêtise? Bon, d'accord. Ou bien, peut-être que tu as une maîtresse qui n'est pas très sympathique. La maîtresse suivante sera meilleure parce que l'école a un but. Et en l'occurrence, la maîtresse n'est pas le bon Dieu. Pour Laurence, il sait bien. Et il y a un principe derrière. Et de même, dans la vie humaine, si on veut se lancer dans la foi, on a à dire, ok, on se lance. Et quand on se lance, ne croyez pas que vous allez vous lancer de manière parfaite. Je vais vous dire, quand on commence son chemin de foi, on se trompe toujours. Si vous croyez que vous allez commencer votre chemin de foi parfaitement, vous vous prenez pour Dieu. On commence avec des bouts d'idolâtrie, avec de l'amertume, avec un espoir que ça va être agréable. Des fois, on grandit dans une famille chrétienne et puis on va faire juste ce qu'il faut pour que ça aille bien, mais la prière tous les jours, on ne va pas trop faire. La foi dont Pascal parlait, la foi dont Jésus parle dans l'évangile de Jean, c'est une foi de tous les jours. Une foi où on s'attend à Dieu, une foi où on se remet à Dieu, on se soumet à Dieu et on voit des transformations dans nos vies. J'en ai vu des générations en ont vu et c'est ce que je vous souhaite. Mais la lecture de la parole n'est pas une option. Sinon, on peut se faire manger par tous les soucis du monde, que ce soit le travail, la famille, la télévision, l'internet. Vous allez vous faire manger tout cru par ce qui tourne autour de vous et votre vie ne portera pas beaucoup de fruits. Pour moi, je suis un homme assez pratique. Je n'aime pas faire ce qui est inutile. Si ça ne porte pas de fruits, je ne fais rien. Ça devient presque maladif. Des fois, je veux toujours apprendre quelque chose. Si je joue aux échecs, je veux apprendre quelque chose. Si je fais de la musique, je veux apprendre quelque chose. Si je discute avec quelqu'un, j'aimerais apprendre quelque chose de la personne. Parce que je crois que dans ce monde, on a à apprendre partout où on va. Et j'aimerais vous encourager à vous attendre à Dieu, vous attendre à apprendre dans tous les endroits où vous allez. Et que vous ne soyez pas déçus. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire 7 paroles que Jésus a mentionnées pour nous apprendre qui il est. Pour nous aider à voir qui il est. Dans la première partie de l'évangile de Jean, ce que vous avez en bas de la feuille, en jaune, Jésus va d'abord dire qu'il est la parole de Dieu, qu'il est la parole faite chair. Ça veut dire que non seulement Dieu est dans les cieux, Dieu parle, mais il parle à travers une personne, Jésus, de manière unique, comme il n'y aura plus aucune personne dans ce monde qui parlera. Et si vous regardez les miracles que Jésus a faits, il n'y a pas grand monde déjà qui peut y arriver à ce niveau-là, hein, en guérison. Mais il y a un miracle que personne, oui personne, n'a refait derrière Jésus. C'est mourir et ressusciter. Ça, vous pouvez y aller. Il y avait un dessin d'humoriste chrétien c'était un humoriste suisse. Il y avait un grand dessin avec, on était dans dans un cimetière. Vous aviez toutes les tombes. Et puis on voit, il y a une tombe, il y a écrit Mahomet dessus. Ou Mohammed, comme vous voulez. Une autre tombe, il y a écrit Bouddha. Une autre tombe, Zoroastre. Une autre tombe, un autre fondateur de religion. Puis un endroit, vous voyez, il y a écrit Jésus-Christ. Et vous voyez, la tombe, vous avez l'impression qu'elle a explosé. Elle est ouverte grand. C'est comme s'il y a eu une bombe qui a explosé là-dedans. Elle a pété. Elle a sauté et Jésus est parti. Il n'est plus dedans. Et c'est ça la différence entre la foi chrétienne et les autres religions où il n'y a pas quelqu'un qui ressuscite. Jésus-Christ est mort et ressuscité. C'est sa victoire sur la mort qui est son miracle le plus grand. Et en même temps qu'il enseigne, dans cette première partie, il prépare les gens à comprendre qui il est. Et quand on arrive vers le chapitre 3, il va parler de la vie d'en haut. La vie d'en haut, il utilise un mot en grec qui est anothen, qui veut dire soit d'en haut, soit de nouveau. Et quand Jésus va dire à Nicodème, nul ne peut hériter du royaume des cieux s'il ne naît anothen, qui veut dire ou d'en haut, ou de nouveau. Et Nicodème, il va comprendre quelle option, lui ? De nouveau. De nouveau. Donc, en haut, ça ne veut rien dire pour lui. Donc, de nouveau, il lui dit, ben, je ne vais pas naître de nouveau, je suis déjà vieux, je ne vais pas rentrer dans le sein de ma maman. Et finalement, Jésus va lui répondre quand même. Il ne va pas lui dire, tu sais, tu n'as pas bien compris ce que je te dis. Il va lui dire, il te faut naître d'eau et d'esprit. Et donc, d'en haut, implicitement, dans la relation avec Dieu. Et c'est l'Esprit Saint qui peut nous renouveler. Alors, j'aimerais vous dire un petit détail. Il y a des gens qui essayent de se purifier et qui se disent, une fois que je serai purifié, je vais pouvoir inviter l'Esprit Saint. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, il n'y a qu'une seule personne qui est capable de purifier. C'est Dieu. À chaque fois qu'on dit, oh, je vais mettre ma vie en ordre, et puis ensuite, Dieu, je vais lui dire, viens. Ça peut durer des années, ça peut durer toute votre vie quand vous faites comme ça. Si vous voulez vraiment que votre vie soit mise en ordre, demandez à celui qui sait comment nettoyer votre vie. N'essayez pas par vos forces. C'est plus facile de mettre le bazar dans une vie que de la ranger. C'est plus facile de casser que de reconstruire. Et on a besoin de Dieu pour nous aider à reconstruire. Et Jésus lui dira, il faut naître d'eau et d'esprit. Au chapitre 4, il parlera dans une ville qui est méprisée en Samarie, et ensuite à un non-juif, un centurion de qui il est, à une femme qui a eu 5 maris, qui est en concubinage sans qu'elle soit vraiment mariée, on dirait à l'époque, elle était méprisée parmi le peuple le plus méprisé par les juifs, les samaritains. C'est à elle que Jésus va lui dire « je suis le Messie ». Il ne va pas aller voir le grand prêtre pour lui dire « tu sais, je suis le Messie ». Il va dire à cette femme qui est méprisée de tous, il va lui dire « c'est moi le Messie ». Et elle va annoncer à tous les gens qu'elle connaît, et toute cette ville va accueillir Jésus. Ensuite, il va parler, Jésus, du fait que la vie vient de lui, vient à travers lui. La vie vient du Fils de Dieu. C'est le chapitre 5, la vie vient du Fils. Et pour exprimer cela, il va passer au chapitre 6 à une histoire. Quand Jésus raconte une histoire, il le raconte de manière concrète. Il essaye de trouver des illustrations pratiques. Qu'est-ce qu'il va faire comme illustration pour cet enseignement ? Il va faire comme illustration le seul miracle qui est dans les 4 évangiles. Vous savez quel est le seul miracle qui est dans les 4 évangiles ? Multiplier les pains et nourrir les 5000 hommes. C'est le seul miracle que vous retrouvez dans les 4 évangiles. Indépendamment de la mort et de la résurrection, bien sûr. Et quand Jésus va faire cet enseignement, ça va être à la fois choquant, mais ça va être un des enseignements les plus importants de Jésus. Et j'aimerais qu'on écoute ces paroles. Chapitre 6 de Jean, les versets 27 à 35. Thierry, tu peux lire pour nous ?
Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que venons-nous faire pour faire des œuvres de Dieu ? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en lui, en celui qu'il a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi ? Que fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croirez point.
Merci Thierry. Merci beaucoup. Je suis le pain de vie. C'est lui, Jésus, qui est la parole qui vient de Dieu. Dans l'Ancien Testament, au chapitre 8 de Deutéronome, il était dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus est la parole de Dieu. Donc on a à se nourrir de Jésus. Et ça, c'est un des paradoxes de notre foi. La parole de Dieu, de Jésus, peut nous nourrir. Elle peut nourrir notre vie. Elle peut nous nourrir à un niveau plus profond qu'aucune des nourritures de ce monde peut nous nourrir. Il y a des endroits dans notre cœur qui aspirent à quelque chose, qui aspirent à une noblesse, à une droiture, à une générosité, à une beauté. La question, c'est où est-ce qu'on va la trouver, cette pureté? Où est-ce qu'on va trouver cette beauté? Où est-ce qu'on va trouver cette droiture à laquelle on aspire? On va la trouver à travers Jésus, à travers ses enseignements, à travers la relation avec lui, si on prend le risque de la relation. Toute relation a un risque. Quand vous entrez en relation avec quelqu'un, vous prenez des risques. Et une des raisons pour lesquelles Jésus a dit « il faut pardonner », c'est que quand on ne pardonne pas, on commence à ne plus prendre de risques. On devient comme des tanks, des tanks blindés, qui d'un côté se protègent des relations, mais d'autre côté ne sont plus capables d'entrer en relation. Vous imaginez un conducteur de tank qui veut essayer de rester aux commandes de son tank et de serrer la main de quelqu'un qui voit. Il arrive avec son tank, il se dit « il faut que je me rapproche de la personne pour que j'arrive à lui serrer la main ». Oh là là, mais mes chenilles vont lui faire mal là si je lui arrive. Si on reste aux commandes du tank, il n'y a pas le choix. Soit on écrase les gens, soit on reste à distance. Mais on ne peut pas avoir une relation proche avec quelqu'un. C'est pour ça qu'on doit rester ouvert et prendre le risque de la relation. C'est pour ça que finalement, entrer en relation, c'est prendre le risque de la souffrance. Et j'aimerais vous dire une vérité éternelle, universelle. Vous ne pourrez jamais aimer sans souffrir. Si votre but c'est de ne pas souffrir, je vous donne le conseil suivant, arrêtez d'aimer. C'est le conseil que le Bouddha avait déjà donné il y a plus de 2500 ans. Le Bouddha, il voulait lui arrêter de souffrir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réfléchi et toute sa vie, au bout d'un temps, il s'est dit, finalement, pour ne pas souffrir, il y a une technique, il ne faut plus avoir de désir. Il ne faut plus avoir de désir, parce que le désir est du côté de l'amour. Désirer le bien de l'autre, désirer quelque chose, c'est déjà un premier pas dans la direction de l'amour. Si vous n'avez plus de désir, vous ne souffrirez plus. Vous serez un vrai tank, tout seul, enfermé, et vous pourrez mourir dans votre tank, personne d'autre que vous ne vous fera de mal. Mais la mort vous prendra de toute façon et ça sera une souffrance. Vous ne pourrez pas échapper à celle-là. Et en opposition, Jésus, au contraire, il dit « Mon enseignement, ce n'est pas d'arrêter de souffrir. Si vous me suivez, vous souffrirez. » Mais moi, mon enseignement, c'est d'aimer. Je vous invite à apprendre à aimer. Aimer, ça veut dire prendre des risques. Aimer, ça veut dire s'ouvrir au risque d'être déçu. Aimer, ça veut dire qu'on va faire des efforts. Aimer, ça veut dire que des fois, la personne qu'on aime va être dure avec nous. Mais c'est ça le chemin du Christ. Et ça se vit dans nos relations proches. Et Jésus est en train de dire... Je suis le pain de vie, au chapitre 6. Vous avez à vous nourrir de moi, de mon enseignement, pour entrer dans cette vie à laquelle je vous appelle. Et lui, qui veut nous enseigner à aimer, sait qu'on ne pourra pas apprendre si on ne se nourrit pas de lui. Est-ce que vous voulez apprendre à aimer? Dans ce monde, on est les champions des profs sans enseignants. Tout le monde dit « oui, l'amour, c'est beau ». Quand vous leur demandez « où est-ce que tu as appris à aimer ?» Oh, tout le monde sait. Tout le monde sait. Non, je suis désolé. Aimer, ça s'apprend. Ça s'apprend à travers des parents, ça s'apprend à travers des hommes, des femmes qui nous donnent des exemples, ça s'apprend à travers l'homme qui donne l'exemple le plus brillant, si on peut dire, qui est Jésus. Soit on se met à son école, soit on ne se met pas à son école. Si on ne se met pas à son école, on limite notre profondeur de capacité à aimer. On sera gentil, mais on ne sera pas capable d'aimer d'une façon qui est à la fois pour les hommes virils, pour une femme féminine, douce et droite. On n'arrivera pas à faire cette distinction pour que Dieu nous protège de ce qui est le plus difficile et qu'on arrive quand même à aimer pleinement. Parce que si on veut se protéger, on devient des tanks. Pour ne pas devenir des tanks, on a besoin d'une autre protection. On a besoin de Dieu comme quelqu'un qui va nous garder quand on prend le risque d'aimer. Et Jésus nous dit, c'est moi le pain de vie. C'est moi qui vais vous nourrir, qui vais vous donner cette nourriture dont vous avez besoin pour que vous arriviez à avancer, même quand vous prenez des risques, même quand vous êtes dans un désert. Comme le peuple d'Israël, pendant 40 ans dans le désert, a été nourri chaque jour par Dieu. C'est pour ça que Jésus disait, je suis le pain de vie. On est appelé à se nourrir de lui. Du texte écrit, mais au-delà du texte écrit, c'est en priant, en disant à Jésus, « Ok, je prends le risque, comme Pascal l'a fait, il y a de ça quelques siècles, comme d'autres l'ont fait, je prends le risque, bienvenue Rémi. » Bonjour, installe-toi. Salut Peter. Jésus nous dit, je suis le pain de vie. C'est lui qui va nous nourrir. C'est lui qui va nous donner ce que nous avons besoin, même quand la vie est difficile, même quand nous avons des besoins et on ne sait pas comment y répondre. Jésus, si on se tourne vers lui, va nous aider à trouver la réponse. C'est la première parole. Je suis le pain de vie. La deuxième parole arrivera quelques chapitres après. Vous avez votre graphique. Vous voyez, ensuite, il y aura la fête des tabernacles où Jésus va venir. Tiens, Rémi. Et sur le côté gauche, quand on remonte au chapitre 8, pardon, Jésus va expliquer qu'il délivre du péché. Ce chapitre 8 commence par l'histoire d'une femme qui a été prise en adultère. Une femme qui a été prise au milieu de quelque chose qui pouvait entraîner sa mort à l'époque. Il y a un petit détail, c'est que normalement, quand deux personnes commettaient l'adultère, qui est-ce qu'on lapidait ? Les deux. Il y a un détail là. Ils ont attrapé la femme, mais ils ont laissé partir l'homme. Ils auraient dû, s'ils voulaient suivre la loi la plus rigoureuse, c'était prendre les deux. Mais c'était pratique, on tue la femme, comme ça elle ne pourra pas répéter, puis l'homme on oublie. Non, normalement, ils auraient dû prendre les deux. Mais on amène à Jésus cette femme, on lui dit, qu'est-ce que tu dois faire avec elle ? Qu'est-ce que tu nous dis ? Et Jésus, il sait bien, s'il leur dit, vous devez lapider cette femme, c'est le commandement. Après, ils vont dire, vous voyez, votre Jésus, il fait comme ce qu'on dit, hein, nous. Et que s'il dit qu'ils ne doivent pas lapider la femme, on va lui dire, tu ne respectes pas la loi de Moïse, et donc tu n'es pas droit. Et Jésus, il est rusé, hein. Vous savez ce qu'il va commencer à faire ? Il va écrire sur le sol. On ne saura jamais ce qu'il a écrit. Certains disent, il a commencé à écrire les péchés de chacune des personnes présentes. Et il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Allez-y, je suis d'accord, je sais que c'est la lapidation. Maintenant, pour que vous ayez le droit de tuer quelqu'un, il faut que vous soyez sans péché. C'est un détail que les gens oubliaient. Dans notre monde moderne, on aime bien dire qu'il y a des gens qui font des choses tordues. Et quand nous, on nous dit qu'on fait des péchés, vous savez ce qu'on a comme technique ? D'accord, moi je fais des péchés, mais regarde l'autre là, il fait pire que moi. En gros, on est en train de jeter la pierre. On prend une pierre et on dit... Oh d'accord, bon mais regarde lui, il fait pire que moi. On va taper sur celui-là plutôt que sur moi. Jésus, c'est pas comme ça qu'il fait. Il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Si vous voulez condamner quelqu'un, commencez d'abord par être pur. Et le texte est très, très touchant parce qu'à ce moment-là, il dit « Alors tous partirent, les plus vieux d'abord. » Vous avez une idée pourquoi c'est les plus vieux qui partent d'abord ? Ils ont eu plus de temps pour faire plus de péchés. Et donc Jésus, il le sait. Et tout le monde va partir. Ils vont lâcher les pierres et puis ils vont être vexés parce qu'ils ne peuvent rien répondre à cette parole. Ils ne peuvent rien répondre à cette parole qui les a surpris. Jésus va dire à la femme, où sont tes accusateurs ? Qui t'accuse ? Elle lui dira, ils sont tous partis. Jésus lui dit, va. Est-ce que lui, il a péché ? Non. Lui, Jésus, était le seul qui pouvait jeter la pierre. Mais il lui dit, maintenant, va et ne pêche plus. Jésus lui dit, t'as échappé à la mort, mais ce n'est pas pour continuer à pécher, c'est pour arrêter de pécher. Et des fois, on peut avoir l'impression qu'on a évité la mort. Et si Dieu nous protège, c'est qu'il veut qu'on porte du fruit, c'est qu'il veut qu'on arrête de pécher pour qu'on puisse arriver à un chemin qui soit à son honneur, dans sa présence. Et juste après, Jésus va dire, Colline, est-ce que tu pourrais nous lire le chapitre 8, verset 12 ? Et Anton, tu peux déjà te préparer, ça sera au chapitre 10, les versets 7 et 11. Colline, chapitre 8, verset 12. Ah oui, c'est vrai, tu as le... Chapitre 8, verset 12.
D'accord. Jésus le parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. »
Merci. « Je suis la lumière du monde. Celui qui marche avec moi aura la lumière de la vie. » La femme qui était adultère, Jésus ne l'a pas condamnée, mais l'a invitée à se détourner du péché. Si vous avez dans vos vies des péchés dont vous voulez vous débarrasser, vous vous dites « il y a des choses qui ne sont pas droites dans ma vie, il y a de la colère, il y a des jugements, il y a de la dureté, il y a des choses impures », je vous invite à amener la lumière pour voir clairement quel est le problème. Vous avez besoin d'avoir de la lumière. C'est facile de dire qu'il y a un péché, qu'il y a un problème, mais pour donner un diagnostic, c'est plus difficile. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui sont des médecins qui savent faire un diagnostic. Diagnostic, c'est analyser, de dire le problème est là. Mais très peu qui savent donner un remède. Ça n'est pas tout de dire « c'est là le problème ». La question c'est « est-ce qu'il y a une solution ?» Nous sommes des fois très forts pour donner un diagnostic dans notre vie. On va dire « dans ma vie, le problème c'est l'impureté au niveau des images avec, par exemple, la pornographie. L'impureté dans ma vie, c'est l'alcool et la violence qui en découle. L'impureté dans ma vie, c'est la colère avec telle personne. L'impureté dans ma vie, ça va être les mensonges. L'impureté dans ma vie, ça va être les manipulations financières, mon manque d'honnêteté, face aux taxes ou quoi que ce soit. » Alors on est très forts, nous, dans nos vies et dans la vie des autres, pour donner des diagnostics. Mais je veux vous dire, il y a une différence entre un diagnostic, analyser quel est le problème et trouver la solution. Si vous avez un problème dans vos vies, bien. Si vous croyez que vous pouvez le régler par vos forces, essayez. Mais si vous n'y arrivez pas, n'ayez pas l'orgueil suprême de dire « puisque je n'y suis pas arrivé, il n'y a aucun espoir ». C'est un mensonge. Ce n'est pas parce qu'on n'y est pas arrivé qu'il n'y a pas une solution. Mais cette solution ne vient pas de nous, elle ne vient pas de vous, elle ne vient pas de moi. Elle vient de celui qui peut apporter la vraie lumière pour qu'on voit vers où on peut marcher. Dans le psaume 119 au verset 105, il est dit « Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds. » Pourquoi une lampe à mes pieds ? Pour savoir vers où marcher, pour savoir où est le passage est solide et où je vais pouvoir avancer sans tomber dans des marais, sans tomber dans des épines, sans chuter. Et si vous voulez marcher, vous avez besoin de la lumière de Dieu. Si vous voulez marcher sans la lumière de Dieu, eh bien, soyez prêts aux conséquences de cela. Soyez prêts aux conséquences d'amertume, de dureté qui vont venir avec le temps, et d'échecs qui viendront. Mais si vous marchez avec Dieu, il y a un espoir. Est-ce que ce sera facile ? Peut-être qu'il y aura des montées, peut-être qu'il y aura des difficultés. Mais il y aura la lumière qui va vous guider et qui vous permettra de vaincre ce monde, tout comme Jésus a vaincu ce monde et vaincu la mort, non par nos forces, mais par sa grâce. Et pour arriver à cette victoire, avec cette lumière, nous allons arriver au chapitre 10. Nous avons besoin d'autre chose. Est-ce qu'Anton, tu pourrais nous lire le chapitre 10 de Jean, le verset 7 et le verset 11 ? Jean, chapitre 10, versets 7 et verset 11.
Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. » Verset 11.
Oui.
« Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. »
Merci, Anton. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Les brebis, c'est nous. Une brebis a besoin d'un guide pour apprendre, pour marcher dans la bonne direction. Tout comme les enfants ont besoin de parents, d'enseignants pour pouvoir grandir. Sans enseignants, nous ne grandissons pas. Et on a besoin de l'enseignant suprême, qui est Jésus, qui va non seulement nous enseigner, mais nous protéger aussi, parce que si on est fidèle à Dieu, vous serez surpris de voir que quand il y a des choses qui ne sont pas droites, que l'on a envie de faire, Dieu va nous aider à en prendre conscience. Après, une brebis peut toujours choisir de fuir le berger et de tomber dans un trou. Et le berger essaiera de la récupérer jusqu'à un certain point, lui dira « Je vais t'aider, mais ne retourne pas dans ces endroits-là, c'est dangereux. » On a la capacité à se tuer, spirituellement et physiquement. Mais Dieu veut nous inviter et être notre bon berger. Jésus veut être notre bon berger, qui va nous garder. Et Jésus a dit aussi qu'il était la porte des brebis. Ça veut dire que c'est à travers lui qu'on entre dans la bergerie, le lieu protégé. C'est à travers Jésus qu'on entre dans la protection de Dieu. C'est en même temps qu'on entre dans la relation avec Jésus qu'on va entrer dans cette sécurité. Qui d'entre vous veut de la sécurité dans votre vie? Qui a envie qu'on puisse être cambriolé? Que ce que vous avez soit volé? Qui entre vous a envie de ça? Personne. Personne ne veut qu'on prenne ce qu'on a. Qu'on nous prenne nos enfants, qu'on nous prenne un bien qui nous est cher. Mais pour cela, il va falloir qu'on ait une protection. Et cette protection, le monde ne vous la donnera pas. La meilleure des assurances ne vous assurera jamais que vous n'aurez pas un accident de voiture, que vous n'aurez pas quelqu'un qui puisse vous tuer, que vous n'aurez pas votre maison détruite ou que votre femme ne mourra pas, que vos enfants partiront. Personne dans ce monde ne peut l'assurer. Ce que Dieu peut assurer, c'est que si vous entrez dans sa présence, Dieu va mettre de l'ordre dans votre vie et progressivement va mettre une protection autour de vous qui va vous donner de la sécurité pour que vous puissiez grandir. Sans un minimum de sécurité, on ne peut pas grandir. Si les gens nous font du mal et qu'on n'a pas cette sécurité dans la relation avec Dieu, ça va nous détruire. Et il va falloir qu'on trouve ce pont vers Dieu pour qu'on trouve cette protection. Parce qu'il y a des gens mauvais dans ce monde. Il y en a, c'est une réalité. Mais nous avons à apprendre à être protégés. Et je vais vous dire une chose encore plus forte. Il y a des gens dans ce monde qui font du mal et qui le font au nom de Dieu. Malheur à eux. Ils auront à payer très cher devant Dieu. Ceux qui utilisent le nom de Dieu en vain, ceux qui utilisent le nom de Dieu et sous le nom de Dieu font croire qu'ils sont justes et qu'ils vont vous manipuler. J'aimerais vous dire, ceux-là auront un jugement très grave, car on ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu parce que Dieu veut la sainteté, la droiture, et quand vous utilisez le nom de Dieu pour faire le mal, vous n'êtes pas loin du péché contre l'Esprit Saint. Vous n'êtes pas loin de ce péché qui sera jugé très durement. La question n'est pas de savoir s'il y a des gens dans vos vies qui ont fait ce péché. La remarque, c'est que Dieu n'est pas aveugle. Dieu n'est pas aveugle et jugera. Mais vous pourrez trouver une protection. Si vous voyez quelqu'un qui vous parle de Dieu et qui fait des péchés, ne vous appuyez pas sur cette personne comme guide spirituel ou comme exemple. Si la personne fait des péchés, n'apprenez pas de lui. Détournez-vous de cette personne et cherchez ailleurs. Et si cette personne, le pire qui puisse arriver, c'est quelqu'un qui vous témoigne de Jésus, vous arrivez dans la foi et cette personne, vous vous rendez compte qu'elle est tordue. J'ai expérimenté cela. Et j'aimerais vous dire, rien ne vous empêche de dire « Seigneur, j'ai découvert une partie de la relation avec toi, je veux avancer maintenant, mais me détourner de cette personne tordue. » Et Dieu va vous montrer des gens droits. Dieu va vous montrer la justice pour que vous puissiez avancer. Il va être votre berger, il va être la porte qui ouvrira à cette protection de la bergerie. En plus de cette protection, Jésus va dire quelque chose d'incroyable. Au chapitre 11, toujours avec des exemples, vous vous rappelez, avant que Jésus dise « Je suis le pain de vie », il a donné de la nourriture à 5000 personnes. Et là, au chapitre 11, avant d'enseigner, il va d'abord ressusciter Lazare. Il va donner la vie à Lazare. Lazare est mort. Lazare était un ami de Jésus. Lazare était un ami proche de Jésus. Et ils avaient des liens vraiment amicaux. Vraiment, c'était quelqu'un que Jésus aimait beaucoup. Pourtant, quand il apprend qu'il est malade, il ne va pas venir le voir tout de suite. Il va lui dire à ses disciples, « Je n'y vais pas tout de suite parce que Dieu va faire quelque chose que vous allez, qui va vous surprendre tous. » Il va attendre quelques jours. Ensuite, il va dire, « On peut y aller à ses disciples. Lazare est mort. » Mais il va y aller et il va ensuite rencontrer des sœurs qui vont lui dire, « Si tu avais été là, je suis sûr que tu aurais pu faire quelque chose. » Ben oui, il a guéri des milliers de personnes. Il peut bien guérir son ami. Et Jésus va dire quelque chose d'incroyable à une de ses sœurs. C'est au verset 25. Est-ce que Laurence, tu pourrais nous lire Jean chapitre 11, versets 25 et 26 ? Vous avez remarqué ? Jésus dit donc, Jean chapitre 11, versets 25 et 26. Il leur dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Est-ce que c'est facile à croire ça ? On n'a jamais vu quelqu'un qui ressuscite lui-même. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Oh là ! Là, c'est un gros morceau. Et il finit le verset 26 en disant à cette sœur, qui est Marthe, « Est-ce que tu le crois, ça ? Est-ce que tu le crois, ça ? Si Jésus vous avait demandé qu'il n'était pas ressuscité, que vous étiez une des personnes qui viennent voir ces miracles, et qui disent, « Thierry, tu crois que je suis la résurrection et la vie ? Pas moi, hein, Jésus. Hein ? » Oh là là, on va essayer d'être poli, mais... Et Marthe va répondre au verset 27, « Oui, Seigneur, je crois que tu es Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Elle répond à côté. Elle dit, « Alors, tout le monde, personne ne mourra. Oui, je crois que tu es le Christ. Ça, on a le droit. Ça fait partie de ce qu'on croit. Mais que quelqu'un va vaincre la mort, non, ça, on peut pas. Ça, je suis désolé, ça va trop loin. » Et juste après, Jésus va arriver, il va dire « Roulez la pierre devant le tombeau de Lazare. » Les gens vont rouler la pierre. C'est une grosse pierre qu'il fallait bouger avec plusieurs hommes pour arriver à la bouger. Et quand cette pierre est roulée, elle était roulée pour protéger, que les gens ne viennent pas voler des choses dans les tombeaux, pour protéger finalement les cadavres. Et une fois que les gens arrivent à rouler cette immense pierre, ça sent pas bon. Vous avez déjà senti des cadavres d'animaux après quelques jours ? Vous avez déjà senti des poissons qui sont morts quelques jours sans être au frigo ? Un poisson pourri, ça sent bon ? Ça vous dit quelque chose, ces odeurs ?
Mais la chair de cadavre humain, c'est le plus mauvais de tout.
En tout cas, ça sent vraiment pas bon. Et on lui dit à Jésus, on lui dit que ça fait 3 jours. En plus, plus il fait chaud, plus ça pue. Plus il fait froid, moins c'est problématique. Et en Israël, il faisait assez chaud quand même. Donc, on lui dit, tu sais, ça, il sent déjà. En gros, non seulement il est mort, mais il commence déjà à se décomposer. On ouvre le tombeau. Jésus ne va pas entrer dedans. Il va juste dire une parole. Lazare, viens ! Et on voit Lazare qui se lève et qui vient avec des bandelettes. On faisait ça des fois avec les cadavres pour qu'ils se décomposent moins vite. Avec des aromates pour vraiment... Aromates, normalement, ça sentait moins mauvais. Hein ? Mais ça pue quand même. Ça, c'est une technique qu'on utilisait jusqu'au Moyen-Âge. Les rois, vous savez pourquoi ils se mettaient beaucoup de parfum ? Roi Louis XIV, parce qu'ils ne se lavaient pas. Il y a une phrase qui est, je ne sais pas si c'est historique, mais qui se raconte, qui dit, quand Louis XIV, on lui demandait combien de fois il prenait de bain, il disait, je prends un bain une fois par an, même si je ne suis pas sale. Et les gens aimaient les odeurs fortes en général, mais il fallait quand même les calmer avec de la poudre, du parfum. Et pour les morts, c'était un peu comme ça. Alors, au temps de Jésus, les gens étaient plus propres qu'au temps de Louis XIV. Hein. Mais quand ils mouraient, on mettait des aromates pour cacher un peu l'odeur mauvaise, pour essayer de ralentir le moment où le corps commence à puer, commence à sentir mauvais. Et Jésus, c'est quelqu'un comme ça qu'il va rappeler, qui va sortir, vivre, vivant, et à qui on va enlever les bandelettes, et qui va vivre. Vous imaginez le témoignage de cet homme après, face aux pharisiens qui disent « Jésus est un mensonger ?» Lazare, c'était tellement choquant de le voir vivant, avec tous les gens autour de lui, près de Jérusalem, à Béthanie, qui avaient vu qu'il était mort. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, ceux qui étaient contre Jésus ? Ils ont voulu le tuer. Ils se sont dit « Si on le tue, ce témoignage vivant de la puissance de Jésus va disparaître. » Mais ils n'ont pas pu le tuer. C'est Jésus qu'on va tuer bientôt. Mais avant qu'on le tue, il va avoir ses derniers discours avec les disciples. Ça sera les chapitres 13 à 17. Rémi, est-ce que je pourrais déjà te demander de te tourner dans ta Bible, de prendre le chapitre 14, le verset 6. Jean, chapitre 14, verset 6. L'évangile de Jean, alors, si tu veux, tu veux demander un coup de main avec Laurence ? Tiens. Ça va bien. Il va te montrer l'endroit. Jean, chapitre 14, verset 6. C'est un verset très important. Parce que les disciples, ils savent que Jésus va partir. Jésus leur dit, je vais m'en aller, mais ne vous inquiétez pas, vous connaissez le chemin vers le Père. Et Philippe va se poser des questions, mais Jésus va leur dire un verset très important. Est-ce que tu pourrais nous lire, Rémi ? Merci Rémi. Jésus dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, ça veut dire que c'est Jésus le chemin vers le Père. C'est Jésus à travers qui nous allons pouvoir aller vers Dieu de manière simple et directe. Est-ce que vous avez besoin de moi pour aller à Dieu ? Est-ce qu'à ton avis, Anton, si je ne suis pas là, tu ne pourras jamais aller vers Dieu ? Je suis pas nécessaire. Hein. Même si je suis sympa, je suis pas nécessaire. Est-ce qu'un curé, un pasteur ou même un pape est nécessaire pour aller à Dieu ? Non, non et non. Qui est nécessaire ? C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Son enseignement, sa présence et l'Esprit qui était en Jésus. Ça, on en a besoin. Et on a à l'inviter. Et venir à Dieu, c'est à travers Jésus qu'on pourra le faire. C'est le chemin parfait. Parce que lui enseigne la vérité. Il est le chemin, la vérité. La vérité parce qu'il nous enseigne qui est Dieu vraiment. Que ce n'est pas un Dieu qui est lointain, c'est un Dieu qui est proche. Qui était proche en Jésus-Christ, qui peut nous parler, qui peut habiter dans nos vies. Les êtres humains de l'époque, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils disaient, Dieu doit être dans des temples humains. Donc on va aller dans des temples. On va faire un beau temple, on va dire que Dieu est là, on va mettre de l'or autour. Et puis si on va là, Dieu est là. Jésus va leur dire, il n'y a pas besoin de ça. Les adorateurs que le Père cherche, ça sera au chapitre 4, c'est ceux qui adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. On n'a pas besoin d'aller dans un lieu précis pour être en relation avec Dieu. Le but du culte le dimanche, c'est de vous aider par des enseignements à aller vers Dieu pendant la semaine. Mais c'est finalement votre relation avec Dieu qui est première, ce n'est pas le culte. C'est votre relation personnelle avec Dieu, combien vous marchez avec Dieu chacun, dans tous les domaines de vos vies. Ensuite, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui donne la vie. La vie en ce monde, la vie éternelle. Comment est-ce que l'on va recevoir la vie éternelle ? C'est tout simple, en recevant Jésus. Et ça va nous préparer à être avec Dieu pour l'éternité. Si Dieu est la source de la vie, alors nous pouvons être avec Dieu si nous sommes en communion avec Jésus. Ce n'est pas une technique. Hein. Il y a des gens, je dirais, c'est des... Dans le protestantisme, il y a un truc assez mystérieux, je dois vous dire. Chez les protestants, on dit, les catholiques, ils disent que si on est baptisé, on sera sauvé, de toute façon, avec plus ou moins de temps dans le purgatoire. Nous, chez les protestants, c'est différent, on est mieux. Nous, il faut qu'à un moment donné, on dise « oui, j'appartiens à Jésus », qu'on a été à l'école du dimanche, « oui, je me fais baptiser par la foi, je suis sauvé par la foi », et puis après, qu'est-ce qu'on fait? On se ramollit, on devient mou. Et puis, on va à l'église, mais notre foi devient molle, notre foi devient ramollie. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? On n'est plus avec Dieu. On n'est plus avec Dieu. Ce n'est pas une technique. Être avec Dieu, c'est une relation continue. Une relation continue. Vous croyez que ce serait juste que Dieu y dise « À toi, tu as dit que tu voulais être sauvé un jour, puis après tu pêches, tu tues, tu mens, tu voles, puis un autre qui a essayé de faire des trucs justes, il n'a pas fait bien, mais il a tué personne. » De quel droit est-ce que Dieu va dire « Celui-là est sauvé et celui-là va être perdu » Quand Jésus parle de qui est sauvé, c'est celui qui fait ce qui est juste. Et c'est à travers Jésus qu'on peut le faire. À travers la foi, à travers l'obéissance envers Dieu. Et c'est ça le point clé. Quand Jésus dit « Je suis la vie », c'est avec lui qu'on a la vie. Ce n'est pas avec des techniques. Et n'essayez pas de trouver des techniques. C'est la relation avec lui tous les jours qui sauve. On va finir le dernier texte où Jésus révèle qui il est. Ça va être le chapitre 15 et le verset 1. Alors, Alexandre, tu as déjà lu pour tout à l'heure. Est-ce que Juliette, tu pourrais nous lire le chapitre 15, verset 1 ?
Je suis le vrai plant de vigne et mon père est le vigneron.
Merci Juliette. Alors, pardon, je vais te demander de lire jusqu'au verset 11. Pardon Juliette. Merci Juliette. Demeurer en Christ, dans la relation avec Christ, ce n'est pas en ayant dit quelque chose dans le passé, comme je venais de vous le mentionner, en ayant même eu une bonne éducation chrétienne. C'est en marchant avec Jésus en continu, en portant son fruit. Ce n'est pas dans le passé que se trouve le salut, c'est dans le présent, dans notre relation avec Dieu maintenant. Ma prière pour chacun de vous, c'est que votre foi soit renouvelée. Que là où peut-être certains ont été plus proches de Dieu dans le passé et que vous êtes un petit peu plus loin aujourd'hui. Ma prière, c'est que vous puissiez renouveler et aller encore plus intimement dans la relation avec Dieu que vous ne l'avez été dans le passé. Parce que c'est le but de Dieu. Le sarment, si il est le sarment, c'est la branche qui vient du pied de vigne, hein. Ce sarment, s'il est coupé, est-ce qu'il va porter du fruit? Non. Il est jeté au feu. Et ce sarment, il a comme but de porter du fruit. Quel fruit? L'amour du prochain. Si on est marié, c'est l'amour de son époux ou de son épouse. Et ça, c'est un challenge de tous les jours d'apprendre. Si on a des enfants, c'est d'aimer ses enfants. Si on est avec des amis, d'apprendre à aimer ses amis. Et dans tous ces domaines-là, cet amour du prochain est un des fruits les plus importants que Dieu manifestera. Si dans vos relations proches, l'amour est fragile, travaillez dessus. Demandez à Dieu de vous aider. Priez plus souvent. Lisez la Bible et dites à Dieu, aide-moi. Renouvelez votre vie. Clarifiez vos relations. Si vous êtes avec des relations qui sont impures et que vous voyez que ça vous fait du mal, cassez les relations. Si vous avez des endroits où vous avez à demander pardon, demandez pardon. Si vous avez des personnes qui vous en font du mal et qui sont loin, ne restez pas prisonnière de ces personnes. Restez attaché au pied de vigne. Restez attaché à Jésus pour grandir, pour ne pas être des chrétiens dont on dira « Ouais, celui-là, il va à l'église, mais il se met en colère, il est juge, il est critique, il est triste. » Être un chrétien joyeux, ce n'est pas une technique, ce n'est pas en disant « Allez, je vais mettre mon masque du dimanche et je vais être gentil le dimanche. Bonjour, comment allez-vous ? » Non. Être un chrétien joyeux, c'est avoir un cœur joyeux, rempli de la joie de Dieu. Et ça, c'est une relation de tous les jours. Est-ce que vous le croyez, ça ? Tout comme Jésus avait demandé à Marthe, est-ce que vous y croyez ? Si vous n'y croyez pas, bah c'est sûr, ça ne fera pas de miracle. Ça va commencer par votre foi. Si vous y croyez, préparez-vous au miracle. Si vous n'y croyez pas, j'aimerais vous mettre au défi de Pascal. Êtes-vous prêt à renouveler votre relation avec Dieu ? Êtes-vous prêt à renouveler votre désir d'être proche de Jésus ? Ça serait la prière que j'aimerais vous inviter à faire aujourd'hui. Pour tous ceux qui le souhaitent, dans les 2-3 minutes qui viennent, je vous invite à parler à Jésus, dans le silence de votre cœur, et de lui dire « Je veux, Seigneur Jésus, renouveler ma relation avec toi. Je veux renouveler ma relation avec toi. Je veux être ce sarment, cette branche qui est enracinée en toi. Si dans vos vies vous sentez que vous êtes arrivé à une descente et que vous voulez retrouver cette joie de la présence de Dieu, ce que vous en avez connu et aller même plus loin, j'aimerais vous inviter. Levez-vous devant le Seigneur, non pas devant les hommes, mais devant le Seigneur. Et dites à Dieu dans votre cœur, alors que nous allons prier, votre prière. Je vous invite à fermer les yeux tous, et ceux qui le souhaitent, levez-vous. En vous levant, vous dites au Seigneur, « Seigneur, j'ai connu des moments où j'étais plus proche de toi et je veux être renouvelé. » Prenons un temps de prière. Seigneur Jésus-Christ, pour ma part je me lève car je veux renouveler, être renouvelé dans la fraîcheur de ton amour, dans cette joie d'être toujours plus près de toi. Tu vois, chacun de mes frères, chacune de mes sœurs ici présentes. Je te prie que tu bénisses ceux qui veulent être renouvelés, qui sentent que leur vie est plus dans la descente que dans la montée. Leur relation avec toi n'est pas aussi forte qu'elle a pu être, où il y a des choses à mettre en ordre. Bénis chacun, Seigneur. Et nous ouvrons ce temps de ces 2 minutes pour que chacun puisse prier dans son cœur, te parler. Toi, Seigneur Jésus, qui es la vraie vigne, toi qui donnes l'énergie de Dieu, toi qui nous aides à vivre la puissance de l'Esprit de Dieu. Bénis chacun ici présent qui veut renouveler ses vœux d'être fidèle à toi, renouveler sa relation avec toi, être rafraîchi. Je vous invite, ouvrez-vous à Dieu, avancez d'un pas plus loin avec notre Seigneur, renouvelez votre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons prier dans le silence de nos cœurs maintenant pour ces 2 minutes. Amen. Merci Seigneur de nous parler, de nous montrer dans quelle direction aller. Je te bénis et je te glorifie, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur vous appelle à renouveler votre relation avec lui et à vivre la fraîcheur d'un amour comme le plus grand amour que nous pouvons avoir dans nos vies. La fraîcheur d'être aimé, de se laisser aimer de Dieu, de se laisser guider par lui.